François Legault, Christian Dubé et Horacio Arruda vont bientôt se présenter sur la tribune, là, c'est à la Grande Bibliothèque à Montréal, pour faire le point sur ce défi 28 jours. Vous vous souvenez, au début du mois, les Québécois ont commencé un défi 28 jours. C'est ce que le gouvernement de François Legault demandait comme effort, c'est-à-dire donnez-nous 28 jours et on va essayer d'aplatir la courbe. On fait le point immédiatement. Le premier ministre est en train de prendre place à Québec.
Je cède maintenant à Montréal, la parole à M. François Legault.
Bonjour tout le monde. Bon, d'abord, on voit qu'hier, on a encore eu 10. C'est à peu près la moyenne qu'on a depuis quelques semaines, 10 décès par jour, 10 nouveaux décès par jour. Je ne sais pas s'il y en a qui s'habituent, mais moi, je ne m'habitue pas parce que derrière ces décès, ben, y a nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs, nos amis. Et faut pas s'habituer. Et faut toujours garder ça en tête quand on fait des efforts pour respecter les consignes qui sont données. Je vais commencer peut-être par la bonne partie. On arrive à la fin du mois d'octobre et on voit que les efforts qu'on a faits depuis le début octobre ont donné des résultats. On a réussi à atteindre un plateau. Un plateau, là, on le voit, dépendamment du nombre de tests, on varie entre 800 et 1000 nouveaux cas par jour. Par contre, ça amène à peu près 10 nouveaux décès par jour. C'est déjà une grande victoire d'être arrivé à maintenir depuis 3 semaines le nombre de nouveaux cas à 1000. Si vous regardez ce qui est arrivé au cours des derniers jours en France, hier, il y a eu 52 000 nouveaux cas. Donc, si on fait une règle de 3, là, c'est comme si le Québec avait eu 6 700 nouveaux cas. Donc, pas 800 à 1000, 6 700, là, si on compare des pommes avec des pommes. Donc, ça veut dire qu'on en a 6 fois moins de nouveaux cas que ce qui se passe actuellement dans un pays qu'on connaît bien au Québec, là, qui est la France. Donc, je veux, en commençant, vous dire à tous les Québécois un gros merci. C'est grâce aux efforts des Québécois que nous, contrairement à d'autres endroits, on a au moins réussi à stabiliser. L'autre bonne nouvelle, c'est la situation dans les CHSLD. Quand on regarde le nombre de personnes infectées aujourd'hui, puis qu'on se compare avec la situation du printemps, on a 85 % moins de personnes, de résidents, résidentes infectées dans nos CHSLD. 85 % de moins. Donc, les efforts qu'on a faits au cours des derniers mois pour ajouter du personnel, pour ajouter une personne responsable dans chaque CHSLD, ça nous permet aujourd'hui de se dire la situation est sous contrôle dans les CHSLD. Par contre, avec 1000 cas, 1000 nouveaux cas par jour, ben, y a un problème dans l'ensemble de la société. C'est trop 800 à 1000 cas nouveaux dans l'ensemble de la société. Donc, il faut baisser ce nombre de nouveaux cas et c'est pour ça qu'on va devoir faire des efforts pour un autre 4 semaines. Donc, je vous annonce que les mesures qu'on a mises en place dans les zones rouges au début du mois d'octobre, on va les prolonger pour 4 semaines, donc jusqu'au 23 novembre. Par contre, j'ajoute tout de suite aussi que toutes les mesures d'aide pour les entreprises qui sont obligées de fermer, comme les restaurants, ben on va prolonger aussi cette aide-là jusqu'au 23 novembre. Donc, on a encore, malgré qu'on ait réussi à stabiliser, on a encore un gros défi devant nous. On ne peut pas continuer à avoir 800 à 1000 nouveaux cas par jour. Bon, d'abord, ça amène une dizaine de décès de plus par jour. Je pense pas qu'il y ait personne qui souhaite ça au Québec. Puis ça amène aussi des conséquences sur le réseau de la santé, des conséquences sur certaines entreprises comme les restaurants. Ça amène des conséquences sur certaines classes, dans certaines écoles. Et en plus, on sait que dans les prochaines semaines, l'hiver s'en vient, donc les gens vont être plus à l'intérieur, donc plus à risque de propagation du virus. Et il y a l'influenza, donc la grippe, là, qui s'en vient par-dessus ça. Bon. Je vous avoue qu'on s'est posé la question. Est-ce qu'on prolonge pour 2 semaines ou 4 semaines? Je pense que c'est plus probable que ça soit 4 semaines, mais dans 2 semaines, on va réévaluer la situation. Puis si les indicateurs montrent une baisse soutenue, là, puis quand on dit les indicateurs, c'est le nombre de cas, le nombre d'éclosions, le nombre d'hospitalisations, si on voit une baisse soutenue, bien, on pourra effectivement relâcher plus tôt là, certaines de nos consignes. Mais pour l'instant, ce que je dirais, c'est on doit s'en tenir à aller au travail et aller à l'école. C'est deux activités là, qu'on doit garder. Puis même ces deux activités-là, il faut être plus prudent. Actuellement, il y a trop d'éclosions dans les entreprises. Donc, on a demandé au comité, là, la Commission santé et sécurité, la CNESST, d'aller faire un blitz d'inspection et on va pas se gêner pour donner des amendes, puis même si les entreprises récidivent, pour enfermer des entreprises. Parce qu'actuellement, il y a trop d'éclosions dans les entreprises. La santé publique le disait la semaine dernière, presque la moitié des éclosions sont dans les entreprises. Donc, il faut vraiment agir de ce côté-là. Puis j'ai parlé avec Jean Boulay en fin de semaine, puis on a déjà commencé un blitz. On va poursuivre ce blitz-là. Bon, pour ce qui est des écoles, on a aujourd'hui 881 classes de fermées. Donc, ça veut dire que ça se maintient encore là, entre 800 et 1000. Donc, ça veut dire concrètement qu'il y a 97 % des enfants qui vont à l'école actuellement. Puis, je vous l'ai dit, malgré les choix qui ont été faits par d'autres États, pour moi, la dernière chose que je veux fermer, c'est les écoles. Donc, ça, on veut maintenir les activités dans les écoles le plus longtemps possible. Par contre, la santé publique, les experts nous disent, d'abord, quand on regarde le nombre de nouveaux cas, il y a plus de nouveaux cas chez les élèves du secondaire qui sont un peu plus âgés. En plus, on remarque, selon la science, que les enfants qui sont un peu plus vieux sont plus transmetteurs du virus que les enfants les plus jeunes. Donc, on vous avait déjà dit que les jeunes du secondaire 4, secondaire 5, iraient à l'école une journée sur deux. À partir de lundi prochain, on va ajouter les jeunes du secondaire 3. Donc, ça veut dire les jeunes du secondaire 3, 4, 5 vont avoir une journée à l'école, puis une journée, là, à distance. Je reviens sur les décès, là. La situation est grave. Pour moi, là, il faut tous qu'on réalise, là, on ne peut pas continuer d'avoir 10 nouveaux décès par jour. Il faut faire des efforts. Puis dites-vous, là, si les efforts que vous faites personnellement réussissent à réduire de 1 le nombre de décès, 1, c'est un trop, là. Donc, ça aurait valu la peine, vos efforts, pour réduire le nombre de décès. Je veux dire un mot aussi aux employeurs. Chaque employeur a une responsabilité. D'abord, comme je le disais la semaine dernière, on demande aux employeurs le plus possible d'avoir leurs employés à la maison, donc qui font du télétravail. Puis quand ils n'ont pas le choix, puis que les travailleurs doivent venir sur les lieux de travail, bien, c'est important que les consignes soient respectées. Donc, le masque, le 2 mètres, là, les employeurs ont une responsabilité s'ils voient les consignes ne sont pas respectées. Puis, comme on disait tantôt, la moitié des éclosions sont dans les entreprises. Donc, il y a un effort à faire pour les entreprises. En terminant, je veux dire un mot sur la santé mentale, parce que j'entends beaucoup de gens dire faudrait recommencer les activités. Écoutez, c'est déchirant, parce que c'est comme la balance des inconvénients. On a à choisir le moindre mal. Donc, on veut-tu 10 décès par jour? Est-ce qu'on veut créer des problèmes de santé mentale chez les Québécois? On veut pas ni un ni l'autre. Mais on est pris à choisir de dire, est-ce qu'on peut faire des efforts pour le mois de novembre, avec en tête qu'on aimerait ça passer un temps des fêtes en famille avec des amis. Et encore là, j'ai besoin des Québécois. J'ai besoin de vous autres. D'abord, on le dit, puis je le répète, on a le droit d'aller visiter les personnes seules, un ou une à la fois, allez-y. Les personnes seules que vous connaissez, allez les voir. Puis si vous voyez qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, bien, essayez de les convaincre d'appeler Info Sociale, 811, pour éventuellement voir quelqu'un. Parce que c'est important là, qu'on ne reste pas tout seul chez soi avec ces problèmes. Donc, c'est le temps pour le peuple québécois de serrer les coudes plus que jamais. Notre destin est lié, là. On est liés les uns aux autres plus que jamais dans l'histoire du Québec. Et moi, j'ai confiance au peuple québécois. Merci. Good evening, everyone.
OK, résumé des propos de François Legault et après ça, on va retourner à la période de questions. Donc, premièrement, les mesures toutes les mesures restrictives se prolongent jusqu'au 23 novembre. Si le nombre de cas par jour que M. Legault déclare être intolérable de 800 à 1000, là, c'est le plateau. Si ça baisse, on pourra revisiter dans 2 semaines. C'est encore un gros défi, ce qu'il a dit. On peut pas continuer à 800 à 1000 nouveaux cas par jour. C'est dit, a dit qu'il ne s'habituait pas au fait que 10 Québécois en moyenne meurent. Il a rappelé, écoutez, ce sont nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs, nos amis, et il a dit, il ne faut pas s'habituer. Par contre, il dit, quand on se compare, ben, on se console un peu. Si on était au même niveau qu'en France, ben, on ne serait pas à 800 à 1000 cas par jour. On serait à 6700 si on avait le même type d'épidémie que la France est en train de subir. Et on a appelé M. Legault à la responsabilité des employeurs. D'abord, si les employeurs peuvent envoyer leurs employés à la maison pour le télétravail, ben faites-le en masse. Et aussi, s'ils doivent venir absolument au travail, a rappelé que il faut se nettoyer les mains, mettre le masque, la distanciation, etc. Et a annoncé qu'il y aura un blitz d'inspection de la, il a dit la CSST, mais il faut dire maintenant la CNESST. Mais tout le monde comprend ce que le PM voulait dire et a réitéré M. Legault que ce que le gouvernement veut à tout prix éviter, c'est de fermer les écoles. Donc ça, ce sera une mesure de dernier recours et a confirmé là, ce qui a circulé aujourd'hui dans les médias, c'est-à-dire que les mesures de secondaire 4 et 5, c'est-à-dire une journée de présentiel sur 2, je vais m'habituer à ce mot-là, c'est étendu maintenant aux élèves de secondaire 3, Philippe.
Oui, ben je pense que le mot-clé pour l'avenir, c'est baisse soutenue. C'est-à-dire que le premier ministre dit que s'il y a une baisse soutenue dans le nombre de cas, peut-être qu'on pourra reconsidérer un certain nombre de mesures. Maintenant, il n'a pas extrapolé davantage. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, baisse soutenue? Est-ce que c'est 400 cas, 500 cas, 300 cas? Ça, on l'ignore complètement. Mais je pense, Patrick, en attendant entendant là, les mots du premier ministre qui a rappelé également que l'hiver arrivait, qu'on allait passer plus de temps à l'intérieur, donc qu'on serait plus à risque, que la saison de l'influenza aussi, de la grippe saisonnière va commencer. Je pense qu'il faut quand même garder nos espoirs d'un déconfinement partiel pour le moins modéré avant Noël.
Oui, donc M. Legault a dit, écoutez, on a jonglé avec l'idée d'y aller à deux ou quatre semaines de prolongation. On y va à quatre et on verra à deux. On retourne à la période de questions.
Donc, je pense que c'est Radio X.
Bonjour, François Guerrier, puis Radio X. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On a appris aujourd'hui un peu plus tôt que 200 propriétaires de gym vont réouvrir jeudi malgré la mesure sanitaire imposée. Alors, jeudi, à quoi on peut s'attendre? On va avoir des amendes auprès des propriétaires ou encore auprès des clients?
Bien, la loi doit être respectée. Donc, on va s'assurer avec les policiers que les lois soient respectées. Donc, les gyms ne peuvent pas être ouverts. Il y aura des amendes, effectivement.
De distribuer du côté des propriétaires et aussi du côté des clients. Aussi, les syndiqués de l'enseignement se disent inquiets d'un retour rapide des classes au retour des fêtes. N'est-il pas impossible d'envisager un retour des classes un peu plus tard et de aussi raccourcir d'envisager un retour en classe plus tard en janvier et même un départ plus hâtif pour les vacances de Noël plus tôt en décembre, tout ça pour créer une espèce de confinement d'un mois. Est-ce que c'est dans vos cartons cette idée-là qui nous est parvenue pas du tout?
Non, écoutez, on a déjà perdu beaucoup de semaines au printemps. Les élèves ne sont pas allés à l'école pendant un certain temps, donc il y a du rattrapage à faire. Il y a une partie de ce rattrapage-là qui a été fait à partir de septembre. Donc, ça veut dire que pour l'année en cours, il y a encore du rattrapage à faire. Donc, il n'est pas question de raccourcir les sessions.
Merci.
On va prendre la prochaine question. Micro 2. Bonsoir, Véronique Lauzon de La Presse. Pour les milieux de travail, est-ce que vous savez quels secteurs sont plus problématiques et est-ce que les amendes seront aux employeurs ou aux employés? Et pouvez-vous juste me dire, est-ce que vous avez dit que vous pourriez fermer les entreprises réfractaires?
Bien, si une entreprise, effectivement, reçoit une amende, un avis de contravention avec des choses à modifier, puis que ces choses-là sont pas modifiées, mais là, l'entreprise pourra effectivement être fermée. Pour ce qui est des entreprises qui sont les plus à risque, c'est sûr qu'on a vu beaucoup d'abattoirs, là, des entreprises où peut-être que la viande ou les aliments... je ne suis pas spécialiste, là, je suis en train de m'embarquer dans quelque chose. Donc, je ne sais pas si un de vous deux peut m'aider.
Dans les faits, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, ces entreprises-là font appel à des employés d'agences qui peuvent provenir de différentes régions. Et si jamais les consignes ne sont pas respectées, c'est possible. Ce n'est pas la première fois qu'on a vu dans l'ensemble du Canada, même, je vous dirais, des abattoirs où, à cause de la proximité du travail aussi des gens, le port du masque n'est pas toujours respecté. Il peut y avoir des transmissions intensives.
Et, M. Arruda, est-ce que vous pourriez revenir sur la décision pour l'Halloween pour pas que ça fasse comme les camps de chasse, là, qu'on se retrouve avec des éclosions qu'on pourrait éviter? Ou peut-être est-ce que des secteurs qui sont trop dans le rouge pourraient ne pas avoir le droit de faire du porte-à-porte?
Mais moi, je pense qu'avec le protocole qui a été mis en place, premièrement, il faut comprendre que les parents peuvent décider de faire ou non l'Halloween. Le problème de l'Halloween, on l'a dit, c'est les rassemblements des personnes, particulièrement à l'intérieur, les fameux parties. Mais on pense qu'actuellement, même dans une zone rouge, si les gens respectent les consignes, les parents s'occupent de leurs enfants, évitent les rassemblements, et que les gens qui reçoivent et donnent des bonbons acceptent certaines consignes, je pense qu'il n'y a pas de menace à la santé significative pour empêcher, je vous dirais, cette activité qui est très importante pour les jeunes familles.
On va y aller avec Andy Saint-André, TVA Nouvelle.
Oui, bonjour à vous trois, bonjour messieurs. Vous avez parlé, puis c'est intéressant, M. Legault, en fin de conférence de presse, de la santé mentale des Québécois. On est comme pris un peu entre l'arbre et l'écorce, de ce que je retiens de vos propos. Il n'y a pas de danger pour la santé mentale des Québécois de refixer une autre date. Maintenant, c'est le 23 novembre, de dire à ce moment-là. Puis, possibilité de réévaluation dans deux semaines, si tout va bien, si une baisse soutenue. Pas de risque pour la santé mentale des Québécois de donner espoir, peut-être revenir encore une fois?
Bien, c'est un équilibre, effectivement, qui est comme fragile. Faut dire la vérité aux Québécois, mais il faut aussi donner un peu d'espoir. Donner de l'espoir, entre autres, pour le temps des fêtes. Mais, pour l'instant, je pense que les probabilités sont que ça va prendre 4 semaines. Si jamais on est capable de faire quelque chose après 2 ou 3 semaines, bien, on va le faire. Mais là, pour l'instant, il y a beaucoup trop de cas. Là, 800 à 1000 cas par jour, c'est beaucoup trop élevé.
Puis, ça veut dire quoi, une baisse soutenue puis une réévaluation dans 2 semaines? J'imagine que vous avez sur papier un objectif, un chiffre précis que vous aimeriez atteindre pour être capable d'alléger ces mesures-là qui sont quand même assez restrictives, prolongées pendant 4 semaines. Ça prend quoi pour qu'on revienne à 2 semaines, là, disons? Là? Vous avez sûrement un chiffre sur la table, un objectif. M. Arruda pourrait peut-être compléter.
Oui, bien d'abord, ça prend une baisse soutenue pendant 2 semaines sur les 3 principaux indicateurs, là, c'est-à-dire le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations puis le nombre d'éclosions. Donc, quel pourcentage de baisse? Bien là, effectivement, ça dépend de plein de facteurs. Puis ça dépend de où part la région aussi. Il y a des régions où il y a plus de travail à faire. À Québec, en Chaudière-Appalaches, il y a plus de travail à faire qu'à Montréal.
Parfait. Merci. Ah, je ne sais pas si vous avez...
Non, le premier ministre a très bien répondu.
Vous n'avez pas de chiffre clair?
Il n'y a pas un chiffre précis parce que le chiffre, probablement, il faut avoir une diminution du nombre d'hospitalisations qui va maintenir notre système de santé en forme. Je veux dire, dans le sens capable de traiter les autres urgences qui vont arriver en termes d'éléments. Puis ça peut varier d'un territoire à l'autre. Hein, la capacité n'est pas la même dans un territoire versus un autre territoire. Après ça, il faut être en mesure de diminuer le nombre de cas de façon importante parce que ces cas-là vont générer des hospitalisations puis éventuellement des décès. Il faut être en mesure d'être capable d'enquêter tous les cas et les contacts, hein, la capacité des équipes de santé publique qu'on est en train de renforcer. Il faut respecter les consignes en amont. Il faut que les communautés collaborent, les milieux de travail, les différentes communautés collaborent à diminuer les éclosions et qu'on puisse contrôler le nombre d'éclosions et que les chiffres associés à chacune des éclosions soient petits. C'est-à-dire qu'on a 2, 3 cas, 4 cas, on est en mesure de contrôler. Fait que c'est tout ça qu'il faut regarder comme tel et c'est tout ça qu'on va regarder au niveau du directeur national, mais avec ses directeurs de santé publique qui connaissent mieux leur territoire, qui sont en mesure de vous dire on a un foyer là ou pas.
Merci beaucoup.
On va y aller avec Annabelle Cailloux, Le Devoir.
Oui, bonjour. Dans le fond, vous étiez lancé au gouvernement et à la population surtout un défi de 28 jours pour justement espérer baisser le nombre de contaminations et rouvrir des secteurs. Là, on voit que ce n'est pas le cas. Est-ce que 28 jours, c'était trop ambitieux peut-être de votre part ou est-ce que selon vous, la population n'a pas fourni assez d'efforts pour qu'on y arrive?
Bien, c'est ça. On peut regarder le verre qui est à moitié plein ou à moitié vide. Là, quand je me compare à la France, là, qui a 6 fois plus de nouveaux cas que nous autres, je me dis on a bien réussi ce 28 jours-là. On a réussi à stabiliser. Par contre, on n'a pas réussi à baisser. Donc, on n'a pas vraiment atteint tout l'objectif qu'on s'était fixé. Mais quand je vois la situation mondiale, je me dis peut-être qu'effectivement, là, on ne voyait pas... Personne ne voyait ça, que la deuxième vague était aussi forte.
Merci.
Prochaine question, Annie Guimette, Cogeco Nouvelle.
Bonsoir. Vous avez terminé votre déclaration en disant que vous faisiez confiance aux Québécois pour qu'ils se serrent les coudes encore quelques semaines. Il y a certains groupes, certaines catégories de personnes qui refusent de le faire. On a vu les gyms aujourd'hui qui ont carrément annoncé leur couleur. Il y a eu un party dans un Airbnb de l'Outaouais. Plus de 80 étudiants qui ont eu des constats d'infraction de 1 000 qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à ces personnes-là? Est-ce qu'il y a aussi un resserrement des mesures qui s'en vient?
Bien, c'est difficile de tout contrôler, ce qui se passe dans les milieux plus privés. Moi, je fais appel, je fais confiance aux Québécois. Tous les Québécois qui sont capables de comprendre l'impact puis que la situation puis l'importance de suivre les consignes, bien, ils ont comme un devoir de l'expliquer peut-être à leurs amis, à leurs connaissances, qui ne voient pas ou réalisent pas cet impact-là.
À propos des entreprises, pour faire suite à ma collègue de la presse, est-ce qu'on a déjà un portrait? Bon, on sait qu'il y a beaucoup d'éclosions, mais dans quel type d'entreprise? Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi ces éclosions sont là? Est-ce qu'on a un portrait global? Je ne sais pas, M. Dubé, peut-être.
Bien, ce qu'on est en train de regarder, c'est souvent un relâchement des mesures parce que ça fait plusieurs semaines que les gens sont... de retour au travail, puis on le voit, là, c'est un peu comme dans les, les centres hospitaliers ou dans les CHSLD. C'est la même chose au niveau du travail. C'est lorsque les gens vont pour le lunch, ils se retrouvent ensemble, on enlève le masque. C'est vraiment un relâchement de, je dirais presque involontaire. C'est un peu comme quand on se retrouve entre amis ou on se retrouve entre collègues de travail. Puis c'est pour ça que c'est malheureux, mais qu'il faut répéter les mesures. Alors, je pense que ce que le premier ministre a dit tout à l'heure, de passer par la CNESST pour bien rappeler les règles, les consignes, je pense qu'on va voir une différence parce que on a besoin de continuer à réduire les cas. Puis peut-être si je rajoutais quelque chose, c'est toute la question des hospitalisations. Puis j'aimerais qu'on prenne juste quelques secondes pour se rappeler. Ça fait plusieurs fois qu'on dit qu'on a un système de santé qui est fragile. Puis si les gens avaient à se donner une raison, là, en dehors de l'éducation, en dehors de se préparer pour les fêtes, on a un système de santé qui est tellement fragile en ce moment que lorsqu'on roule à peu près à 550 hospitalisations cette semaine, puis on a réussi à contrôler entre 800 et 1000, imaginez-vous si on était à 2000 ou on était à 3000 cas. On n'a pas les moyens d'aller là pour nos hospitalisations, pour notre réseau de la santé. Fait que je voudrais juste que les gens se rappellent ça. Mon deuxième point, c'est que tant qu'on va rester à 500-600 hospitalisations en cours, ça veut dire qu'on n'est pas capable d'aller rétablir toutes les chirurgies qu'on a en attente. Rappelez-vous qu'on a 140 000 chirurgies en attente, puis qu'on a de la misère à retourner à notre activité normale d'à peu près 40 000 chirurgies par mois. Tant qu'on va rester à 40 000 chirurgies par mois, on ne viendra pas baisser notre liste d'attente. Alors, imaginez-vous, là, non seulement on met de la pression sur notre réseau de la santé parce qu'on a plus de cas, mais en plus, on n'est pas capable de baisser notre liste d'attente. Alors, pensez à tous les gens, là, comme le premier ministre a dit tout à l'heure, que vous pourriez aider, qui sont en attente d'opération à un genou, qui aimeraient aller faire leur diagnostic. C'est à toutes ces personnes-là qu'il faut penser quand on parle de notre réseau de la santé qui est fragile. C'est pas juste les hospitalisations, mais c'est de mettre le personnel de la santé sur les bonnes choses, c'est-à-dire aussi soigner nos gens, et non juste la COVID.
Si je peux me permettre, il faut faire combien de chirurgies par mois pour rattraper?
Je l'ai donné la semaine dernière, faites bien. On fait à peu près 450 000 chirurgies par année quand tout va bien. On va dire 35 à 40 000 chirurgies par mois. Si on veut aller rétablir ce qu'on a emmagasiné, malheureusement, de 140 000, ben, il faut en faire 5 à 10 000 de plus par mois pour être capable de baisser ça. Alors, c'est pas un problème d'hospitalisation qu'on veut, c'est qu'on n'en veut pas d'hospitalisation COVID. C'est ça qu'il faut comprendre pour qu'on soit capable de régler le problème de la première vague qu'on traîne depuis plusieurs mois. Alors, je pense que si les gens faisaient un lien entre ce qu'ils peuvent nous aider, c'est vraiment s'assurer que on va baisser nos hospitalisations, puis les gens vont pouvoir commencer à re-soigner les gens qui sont en attente d'une chirurgie ou en attente d'un diagnostic.
Merci.
Merci beaucoup.
Prochaine question.
OK, on va interrompre la période de questions. Je vais vous résumer, si vous venez de vous joindre à nous, là, le contenu du point de presse. Ensuite, on va passer à l'analyse avec Philippe Quentin et Patrick Derry, qui est au bout du fil. Donc, le message, c'est que le défi 28 jours va se poursuivre jusqu'au 23 novembre. Ça, c'est la première chose. François Legault, deuxième chose, a dit on ne peut pas soutenir un rythme d'infection semblable. Même si on est dans un plateau, on est à 800 à 1000 nouveaux cas par jour, on ne peut pas imposer ça au système hospitalier. Et Christian Dubé vient de le dire là, en réponse à la question d'une journaliste. Écoutez, il y a 144 000 chirurgies qui ont été mises sur la glace. À 550 hospitalisations, ça surtaxe le système de santé. Donc, écoutez, on ne peut pas continuer à ce rythme-là. Donc, François Legault, par contre, a dit dans son allocution de début de conférence de presse, il y a quand même une sorte de grande victoire à avoir maintenu ce plateau-là. Il s'est comparé à la France, a dit, écoutez, si on avait le rythme d'infection de la France, on serait à 6 700 cas au Québec au lieu d'être de 800 à 1000 cas. Et c'est aussi félicité du fait que les CHSLD, contrairement à la première vague, ne sont pas encore submergés. On va aller parler avec Patrick Derry immédiatement. Salut Patrick.
Salut, monsieur.
Donc, première réaction?
Je dirais que l'amélioration souhaitée repose justement beaucoup sur des souhaits. On n'a pas changé grand-chose. Hein. Essentiellement, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on continue pendant 28 jours ce qu'on a fait, et en ajoutant l'école en alternance pour les élèves de secondaire 3, donc ils vont faire une journée à la maison, puis une journée en présentiel, pour reprendre le terme. Mais pour le reste, il n'y a pas grand-chose qui change, puis c'est pas comme si on avait une baisse prononcée. Hein. On se maintient maintenant depuis un bon 3 semaines autour de 1000 cas. Là, ça a un léger fléchissement ces derniers jours. Mais il faut rappeler aussi que le nombre de tests, on fait à peu près 15 % de tests de moins depuis 2 semaines. Donc, est-ce que c'est un peu mieux ciblé? C'est possible, mais c'est pas une baisse signifiante. On voit les hospitalisations ont tendance à rester à peu près au même niveau, mais c'est encore beaucoup de cas par jour. Ça n'a pas vraiment baissé.
Philippe.
Ben, M. Legault a bien mis les choses en perspective, mais j'ai été particulièrement impressionné par les propos de Christian Dubé là, dans la toute dernière question. Je pense que le problème, essentiellement, il est là. Il l'a redit de façon très claire. Notre système de santé est tellement fragile, ce sont ses mots exacts, tellement fragile et qu'on ne peut pas continuer de rouler à 550 hospitalisations ou à peu près. Et je pense que c'est ça que le message que le gouvernement va essayer vraiment de faire entrer dans la tête des gens, c'est que le système de santé est à bout de souffle, puis si ça continue comme ça, on va rentrer dans un mur, puis les gens ne pourront pas se faire soigner pour les problèmes normaux de la vie. Il dit qu'on ne peut pas simplement soigner des cas de COVID. Et ça, c'est un message qu'on va certainement beaucoup entendre.
Patrick Derry, d'entrée de jeu, tu nous as dit que le gouvernement est dans les souhaits, mais il n'y a pas beaucoup d'action. Écoute, dans la palette d'outils qui est encore à disposition du gouvernement, quel outil n'a pas encore été utilisé, d'après toi?
Bien, écoute, c'est sûr qu'on est un peu mal pris parce que il y a une partie... Le discours était très sérieux aujourd'hui, mais moi, je pense qu'on aurait dû l'avoir il y a un mois et demi quand ça commençait à remonter, non pas d'attendre qu'on est dans le trouble, parce que là, c'est la différence entre un feu de cuisinière puis un feu qui est dans les murs, bien, c'est plus compliqué à éteindre. Là, il y a le traçage ici qui est encore déficient. Le dépistage n'est pas pire, mais après ça, c'est de contacter les gens puis remonter toute la chaîne de transmission. Quand ton traçage ne fonctionne pas, là, puis je ne vais pas faire erreur sauf erreur, c'est la CRC en CF du Canada qui dit il y a quelques jours, au-delà de 72 heures, le traçage ne donne quasiment rien parce que tu as perdu un peu une opportunité d'arrêter la transmission. Fait quand ton traçage est déficient, il te reste le confinement. Et là, si notre traçage ne devient pas beaucoup plus performant, bien, on va continuellement jouer au yo-yo, mais avec peu d'outils. Tu sais, si ton traçage performe bien, tu retraces quelques centaines, puis tu le fais tôt, là, c'est quelques centaines, quelques milliers de personnes qui vont rester à la maison. Si ton traçage n'est pas efficace, là, tu vas mettre des millions de personnes que tu vas limiter leurs activités. Puis là, on est présentement dans ce scénario-là en espérant que ça baisse, puis en disant aux gens, s'il vous plaît, faites attention, puis même si ça vous tente de faire le party, mais...
OK. Patrick, il y a une question du reporter de TVA là, qui a demandé à M. Arruda, à M. Legault, avez-vous, quand vous parlez de baisse soutenue des cas d'infection quotidiens, est-ce que vous avez un chiffre en tête? Et ils n'ont pas donné de chiffre. Est-ce que tu penses qu'ils en ont un?
Je le souhaite, mais je me le demande. La semaine passée, en Mauricie, le premier ministre a donné une entrevue à une autre chaîne de Cogeco pour dire qu'il souhaitait une baisse autour de 800 cas, puis ensuite autour de 500 pour pouvoir ouvrir les restaurants et les gyms. 500 cas, c'est 60 cas par million, c'est le seuil de zone orange, c'est le seuil où, en principe, dans le plan du gouvernement, on est censé fermer les salles à manger puis les gyms. Je ne sais pas si le premier ministre réfléchissait à la voix haute, mais on devrait le savoir. Et moi, ça donne fortement l'impression de naviguer à vue en espérant que ça baisse. Mais tu sais, tu le dis, les outils sont assez limités, puis celui qui serait le plus utile, bien, au Québec, il n'est pas le plus performant.
On a la clip, Patrick, on va l'écouter. C'est une entrevue de François Legault la semaine passée avec Catherine Godreau à Trois-Rivières.
Ce que je souhaite, là, c'est qu'on descende à 800 puis à 500 cas et puis qu'on puisse les réouvrir, les restaurants, qu'on puisse réouvrir les théâtres, qu'on puisse réouvrir les gyms dans les prochaines semaines.
Toi, t'es PM, mettons, Patrick. Non, on va dire t'es conseiller au PM là-dessus. Qu'est-ce que tu y proposes?
Bien, ça me semble un peu prématuré. Là, je comprends qu'il veut faire ça. Puis, tu sais, l'aide aux entreprises ne peut pas se poursuivre de façon indéfinie. Là. C'est catastrophique, mais je veux juste remettre rapidement en perspective. À Séoul, ils ont fermé les salles à manger des restaurants, en fait, d'à peu près tous les comptoirs bouffe, puis ils ont mis un couvre-feu au restaurant à 9h, puis pour les bars aussi, alors qu'ils étaient autour de 300 cas dans un pays de 51 millions, là, en Corée du Sud. Nous autres, rouvrir à 500 cas, alors que notre traçage est déficient, j'ai comme l'impression, là, écoutez, peut-être que l'appel va être entendu, que les gens vont faire un effort additionnel considérable, puis ça va se mettre à descendre, c'est ce qu'on souhaite. Mais les deux principaux lieux de contamination présentement, c'est le travail et l'école, et ça, ça ne va pas changer. C'est sûr que l'on a fermé tout le reste, là, mais on se rappelle au début octobre, là, quand on a fermé les salles de spectacle, les musées, puis après ça, on a mis fin aux activités sportives. Les deux tiers, trois quarts des éclosions avaient lieu au travail et à l'école et on n'a à peu près rien changé à ce moment-là, à part secondaire 4-5. Donc, il faut travailler sur le reste aussi. En Ontario, l'école à distance est offerte. C'est un choix des parents et des élèves à tous les élèves du primaire et de secondaire depuis la rentrée. Et ce choix-là peut être changé de mois en mois. Fait que qu'est-ce que ça fait? Ça fait des milliers d'élèves qui restent à la maison. Et on réduit les contacts de cette façon-là. Écoute, il y a même des garderies en virtuel en Ontario, donc ça se fait. Le Québec n'est pas tout à fait à la même place.
Excuse-moi, des garderies en virtuel?
Absolument, absolument, parce qu'il y a des gens, à un moment donné, qui sont mal pris, mais qui choisissent de ne pas envoyer leurs enfants à la maison pour peu importe la raison.
Ouais, ça prend quand même des grands enfants, là.
C'est des garderies, c'est 3 à 5. Là. C'est sûr que ce pas des poupons, là, mais c'est ça existe. Et en Ontario, la plus grosse...
Attends, Patrick, le temps me presse, il va falloir finir là-dessus, là, mais des garderies en virtuel des enfants de 3 à 5 ans, l'enfant est tout seul à la maison puis il est surveillé à distance?
Non, mais c'est les parents travaillent à la maison, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une façon de limiter les contacts.
Ah, OK, je comprends.
C'est ça le truc, ça occupe un peu les enfants, papa, maman peuvent travailler, puis même les enfants du primaire, là, la majorité des enfants qui sont à l'école à distance en Ontario présentement, c'est pas des enfants du secondaire, okay. C'est des enfants du primaire, donc on baisse les contacts.
Très bien, merci Patrick.
Bonne soirée.